Les pieds sur terre, Sonia Krönlund. Des histoires, des enquêtes, des reportages.
C'est bizarre comme les choses arrivent.
Primo Levi est arrêté en décembre 1943 et déporté à Auschwitz en février 1944, puis interné au camp de Monowitz. Si c'est un homme, raconte son expérience concentrationnaire, c'est un texte fondateur. Un chapitre raconte particulièrement comment la littérature fait son entrée dans le camp de la mort. Un jour que le narrateur fait la queue pour aller chercher la soupe, il se remémore des vers de Dante, le chant 26, mieux connu sous le nom de chant d'Ulysse dans l'enfer de la Divine Comédie. Il veut les réciter à son ami Jean Samuel, que tout le monde appelle Piccolo, et essaie de les traduire pour lui. Pourquoi ces vers-là lui sont venus à l'esprit à ce moment-là? Comment? Il ne sait pas, il n'a pas choisi. Bien que ses premières tentatives de traduction soient assez désastreuses, l'expérience annonce bien, Jean semble comprendre la langue de Dante et suggère même un terme approprié. Le poème revient par bribes, il y a des trous, mais il se passe quelque chose d'essentiel. L'humanité a fait son entrée dans le camp, au milieu de la barbarie. Les deux hommes redeviennent des hommes. Et c'est comme si moi aussi, j'entendais ces paroles pour la première fois, écrit Primo Levi, comme une sonnerie de trompette, comme la voix de Dieu. L'espace d'un instant, j'ai oublié qui je suis et où je suis. Piccolo me prie de répéter, il est bon Piccolo, il s'est rendu compte qu'il est en train de me faire du bien. À moins que peut-être il n'y ait autre chose. Peut-être que, malgré la traduction plate et le commentaire sommaire et hâtif, il a reçu le message. Il a senti que ses paroles le concernent, qu'elles concernent tous les hommes qui souffrent, et nous en particulier. Qu'elles nous concernent, nous deux, qui osons nous arrêter à ces choses-là, avec les bâtons de la corvée de soupe sur les épaules. Tout de suite dans Les Pieds sur Terre, on vous parle aussi de la façon dont la culture est le socle de notre humanité. Nécessaire, essentiel, comme l'air que nous respirons pour exister, bien davantage que les rayons du Citadium. Je ne dis pas ça du tout pour râler contre la fermeture des lieux culturels, même si ce n'est pas l'envie qui m'en manque, car c'est de littérature qu'il s'agit aujourd'hui, dans un contexte moins déshumanisant, bien sûr, que celui décrit par Primo Levi, mais dans un temps où les livres continuent à sauver des existences à leur façon. Ce sont deux histoires racontées par Élise Andrieux.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Quand j'apprends qu'on est confiné, au tout début, je dors. Je pense que la première semaine, je dors tout le temps. Et après, je me suis mise à lire. Dormir et lire, c'était assez paradisiaque. Au début, on se dit, ouais, trop bien. On sent pas encore trop la pression du confinement, il y a plein de gens qui meurent. Enfin, c'est encore le tout début. On sait juste qu'on sait pas trop ce qui va se passer après. Il y a un doute, mais comme c'est sans précédent, on se dit que de toute façon, ça finira bien par s'arrêter. Et puis... Moi, il m'en faut pas grand-chose pour m'évader. Je prends mes romans, je me pose dans le hamac, je lis toute la journée et je m'envole très très loin. Donc, ouais, c'est comme ça au début. Je m'appelle Savannah. Je vais vous parler du livre qui m'a le plus marqué, bon, pendant le premier confinement, mais tout court, en fait, je pense, dans ma construction d'adulte, on va dire, parce que maintenant, ça y est, j'aurai bientôt 20 ans, donc je suis adulte. Et c'est Mémoire d'une jeune fille rangée, de Simone de Beauvoir, qui quand même exprime bien le fait d'être paumé quand on est jeune, le fait de se chercher, tous les doutes de la jeunesse. Quand je le découvre, je suis vraiment surprise et je suis vraiment émerveillée, parce que c'est tout ce que je ressens. Comme dans ma construction, dans le fait d'être une ado, de se chercher. On a envie de tester, de goûter à tout. Et en même temps, on se dit tout le temps, mais j'y arriverai jamais. Mais moi, je suis personne, je suis rien. J'ai pas fait mes preuves face à l'existence. Et de se dire que Simone de Beauvoir, elle a pu ressentir ça. Alors que Simone de Beauvoir, c'est quelqu'un qui a révolutionné la pensée. Et qu'elle a pu se dire, bah, je suis rien, j'arriverai à rien. En fait, je comprends rien à la philo, alors que c'est une ponte de la philo moderne. Bah, en fait, je comprends rien à l'écriture, alors qu'elle écrit magnifiquement bien. De se dire qu'elle a pu penser tout ça, C'est absolument dingue, en fait. Et de se dire, waouh, mais t'es comme moi, en fait. Je pensais pas que tu pouvais être comme moi à ce point. Et je pensais pas que je pouvais me sentir aussi comprise par Simone de Beauvoir jeune, en fait. Et me reconnaître autant en elle. Mais je peux peut-être la citer, genre les passages qui m'ont du coup le plus marqué. Mon cahier de culture, comme je l'appelle. Qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je peux, rien et rien, mon livre, vanité. La philo, j'en suis saturée, l'amour, trop fatigué, pourtant j'ai 20 ans, je veux vivre. Moi, je dis tout le temps que je suis une extrémiste des émotions. elle aussi, dans son livre, il y a cette intensité des émotions qui est très très forte. Et du coup, cette envie de, des fois, de, je me dis, il faudrait que je sois plus posée, il faudrait cette envie de, ouais, de, d'être cette jeune fille calme que tout le monde voudrait qu'on soit, alors que pas du tout. Je suis très très en colère, très très révoltée, très très passionnée. Je pense que le sentiment de révolte avec le collège, ce que j'ai vu et ce que j'ai vécu, ça l'a bien... Je sais pas s'il est né vraiment à ce moment-là, mais ça l'a bien exacerbé, en tout cas. J'ai été harcelée pendant 4 ans. J'étais dans un collège très difficile où il n'y avait pas du tout de mixité, au sens où il y avait très peu de blancs, en fait. Et du coup, j'ai été... régulièrement traitée de sale blanche et isolée parce que j'étais non seulement une blanche mais en plus une intello, ce qui fait beaucoup en fait. Je marchais pas à la violence en fait, je parlais pas le même langage que les gens qui m'entouraient. Donc du coup j'étais exclue et en plus il y avait un cas de harcèlement d'un groupe de filles, aussi parce qu'elles m'en voulaient d'être comme j'étais, parce que je renvoyais tout, aux gens tout ce qu'ils n'étaient pas, le fait que moi j'allais sortir du collège et suivre un cursus potentiellement général et aller au lycée, j'allais réussir ce que eux, du coup, non. Et en fait, pour pas me dire que c'était tous des gros cons, il fallait bien que je comprenne qu'il y avait une mécanique autre derrière qui était de... En fait, ils renvoyaient le racisme qu'ils subissaient. Quand on te contrôle tes papiers 15 fois par journée, tu te sens pas très français, quoi. Quand t'es tout le temps dans un environnement de violence, quand tu te dis « je suis née dans une cité, je vais mourir dans une cité », tu te sens pas forcément très très intégré à la société, quoi. Ces 4 années, je les ai très mal vécues parce que je pense pas qu'il y ait de moyen de vraiment bien les vivre. Enfin, on a pu me dire, oui, bah ça va, se faire insulter une ou deux fois, c'est pas grave. Mais quand c'est 24 heures sur 24, quand c'est tout le monde qui te répète que t'es une merde, mais tu finis par le croire, quoi. J'avais vraiment, vraiment envie de mourir. J'avais mal au ventre quand je me levais tous les matins. Quand il y avait une fenêtre ouverte, je me disais, là, si je saute, là, ça s'arrête. C'est fini, enfin je veux dire, toutes les souffrances, toute la merde que je ressens, elle s'arrête. Après, j'utilisais la lecture comme moyen d'évasion, quoi. C'était vraiment, je passais quasiment 24 heures sur 24 mon temps dans les livres, beaucoup beaucoup de temps au CDI, et je lisais même pendant les cours, je me trimballais, je pense que dans mon cartable, je prenais 4 ou 5 livres par jour, et j'avais ces 4 ou 5 livres, et encore aujourd'hui, presque comme un réflexe, de quand j'étais au collège, je me trimballe toujours avec un ou deux livres sur moi. Je retrouvais des amis que je n'avais pas autour de moi. Je retrouvais un monde doux, finalement, parce que le monde des livres est beaucoup moins violent que la réalité, en tout cas que celle que je vivais. Et j'étais entourée de personnages dans lesquels je me retrouvais et qui ne me haïssaient pas, finalement. Je lisais beaucoup de merveilleux. Donc, par exemple, les Harry Potter, tous ces trucs qui ont donné des films, les Divergentes, les Hunger Games, qui sont pour beaucoup pas de la littérature, mais qui sont des moyens d'évasion, vraiment. Après, je lisais beaucoup, je pense, de romances très, très niaises. J'avais vraiment besoin de quelque chose qui tranche complètement avec la réalité. Donc tout de suite, s'il s'agit d'enfourcher un balai, là c'est bon, je m'émancipe vraiment de la réalité et puis je m'envole aussi. En tout cas, je devais conserver ce qu'il y avait de plus inestimable en moi. Mon goût de la liberté, mon amour de la vie, ma curiosité, ma volonté d'écrire. Et là aussi, la rage de vivre, c'est toujours le cœur, en fait. Et c'est pour ça aussi que je suis si touchée par Simone de Beauvoir. C'est que c'est vraiment... Enfin, je me dis qu'il faut avoir envie de vivre pour tenir 4 ans en attendant la fin. Je pense que je me suis aimée à nouveau avec le passage au lycée, parce que pour la première fois, les gens venaient vers moi quand j'étais au lycée. Et pour le coup, il y avait un vrai mixage de culture dans le lycée où j'étais, et c'est ça qui était génial. Et en fait, jusque-là, j'avais pensé que j'avais besoin de gens comme moi. Et en fait, j'avais pas besoin de gens comme moi, j'avais besoin de gens qui m'acceptaient surtout. Je me projetais étudiante à Sciences Po, exactement comme je le suis. J'imaginais que peut-être un jour, j'aurais... mon appartement, exactement comme maintenant. Bon, là, j'y suis pas parce que, bon, bah, Covid, donc retour à la maison. Mais j'avais enfin la vie que je voulais, quoi. Enfin, je commençais, j'étais à l'aube, là, ça y est, je tenais un truc, c'était parfait, et là, eh ben non. Et, finesse, je vais passer mes 20 ans confinés, quoi. Je veux dire, je sais qu'un 20 ans, c'est juste un chiffre, c'est juste un âge, mais justement, quand on va les avoir, c'est important, et on se dit, waouh, je vais avoir 20 ans. Ça marque quelque chose, et finalement, je vais le passer enfermé entre 4 murs, à la maison, devant mon ordinateur, alors que si j'avais pu aller me poser sur une terrasse avec mes amis pour fêter mes 20 ans, j'aurais été super contente. Et ça, finalement, on me le refuse. Par exemple, Simone de Beauvoir, là, je centre tout sur elle, mais si je devais parler à Simone de Beauvoir de mon âge et lui parler de tout ce qu'elle a et que moi, j'ai pas, je dirais que quand même, elle a du bol, parce que même si elle était privée plein de trucs, même si elle avait pas une liberté totale, qu'elle était dans une époque qui finalement était beaucoup plus conventionnée et où les jeunes filles avaient beaucoup moins de liberté que moi, bah finalement elle pouvait courir les bibliothèques autant qu'elle voulait. Que tu pouvais courir les bibliothèques autant que tu voulais. Que tu pouvais juste t'arrêter au milieu de la rue et t'asseoir sur un banc sans attestation. Que tu portais pas de masque. Que tu pouvais sourire aux inconnus du coup, parce que t'avais pas de masque. Que tu pouvais faire des câlins à tes amis quand tu voulais, que tu pouvais aller au théâtre, aller au cinéma, aller voir des expos, traîner des heures dans les musées, que t'avais pas besoin de choisir un créneau horaire pour aller dans un musée, juste tu pouvais y aller. Bref, que tu t'avais la vie que j'aimerais bien la retrouver maintenant. On a l'impression qu'il y a une mécanique aussi qui s'installe. Alors on se dit, mais putain, mais si ça va être ça tous les 6 mois, si tous les 6 mois on doit être confiné, mais moi je veux pas vivre comme ça, c'est pas une vie. On voit à peine demain, on est suspendu aux infos, aux allocutions du président, qui en plus ménage son suspense, qui met 15 minutes à annoncer chaque mesure, et nous on est là, on est suspendu à ses lèvres, mais crache le morceau s'il te plaît, est-ce que je vais pouvoir sortir? Est-ce que je vais pouvoir passer la porte sans attestation? Est-ce que je vais pouvoir juste aller en cours? Parce que finalement on demande pas plus que ça en fait, hein. Enfin moi je demande pas plus que ça, je demande juste à pouvoir aller en cours. En face à face, pas derrière un écran, parce qu'on est seul derrière son écran. Bah par exemple, enfin si, elle écrit quand même, ça c'est beau aussi quand même. Enfance, adolescence, et le sabot des vaches heurtant sous les étoiles, la porte de l'étable. Tout cela était derrière moi, déjà très loin. J'étais prête à présent pour quelque chose d'autre. Dans la violence de cette attente, les regrets s'anéantissaient. Moi, je suis comme Simone parce que je me pose plein de questions. Qu'est-ce que je veux faire? Je sais, mais est-ce que j'y arriverai surtout? Ben, j'espère que j'aurai écrit plein de trucs. Et peut-être j'aurai publié des choses. Parce que j'écris sur tout ce que je ressens tout le temps. En fait, dès que j'ai un surplus d'émotions que j'ai besoin d'évacuer, j'écris. Des fois, c'est en cours que j'écris. Au lieu de suivre le cours, et ben il me vient l'envie d'écrire. Et des fois, quand je décrochais, ben j'utilisais le temps de décrochage pour écrire un poème. Ça pouvait être parfois même en devoir sur table. Je pouvais me dire, j'en peux plus là, il faut que je fasse une pause. Et ben ma pause, c'était pas d'aller aux toilettes ou de manger un gâteau, c'était d'écrire un poème. Celui-là, alors je vais lire un poème que j'ai écrit au début du confinement. Les jours passés, les jours présents, Quelle différence quand j'y pense. Hier, aujourd'hui, demain, sans frein. Le présent s'étire, lent, sans jamais se muer en passé, sans jamais vraiment passer. Il s'est installé. Et moi, dans mon canapé, j'attends et je regarde le temps. Et la vie par la fenêtre, celle que j'avais, celle dont je rêvais, celle que je devrais, sans pouvoir y goûter, sans pouvoir y toucher, j'ose même plus en rêver.
Il y a les livres qu'on lit, les romans, qui amènent quelque chose, on les referme, on les range, voilà. Et puis il y a ceux dont on sait très bien qu'on va y revenir, y revenir, y revenir, sans fin, parce que ces livres-là sont comme des ancêtres à qui je demande conseil, ou des arbres sur le contre le tronc duquel je m'appuie. Voilà, c'est comme ça que je vois les choses, en fait. Je m'appelle Karine Henry, et je vais vous raconter une histoire qui a débuté avant le confinement, une histoire de livres et de lecture qui, au moment du premier confinement, m'a sauvée et soutenue. C'est-à-dire que quand il s'est agi de faire sa valise très rapidement le lundi soir pour partir là où j'allais être confinée, c'est-à-dire dans le sud, vers Marseille, chez mon ami, j'ai fait ma valise sans savoir vraiment quand je rentrerais. Et donc, j'ai pris un certain nombre de livres. Et à ce moment-là, j'ai choisi La puissance de la douceur de Anne Dufour-Mantel. Et il était hors de question que je parte sans mon livre Rupture de Claire Marin, qui m'accompagne dans toutes les ruptures de la vie, en fait. Quand je l'ai eu dans les mains, je me suis sentie totale et complète et pleine, en fait, c'est-à-dire j'étais capable de partir. Depuis 2019, le livre Rupture m'accompagnait. J'ai été atteinte d'une douleur neurologique dans la jambe gauche. J'étais hospitalisée, etc. Ça a duré un an et demi. Et on m'a dit que j'allais devoir vivre avec. J'ai toujours fait beaucoup de sport. Voilà, j'ai toujours aimé courir. Pour moi, courir, c'est la liberté. Partout où je suis, je cours. Et puis là, j'ai été obligée de m'arrêter. Donc, comme je suis libraire, je me suis acheté à moi-même un livre, Rupture de Claire Marin. Et en fait, effectivement, ça a été une rencontre bouleversante pour moi, parce que son sujet consiste à chercher autour des épreuves de la vie. Comment est-on constitué tout autant des sorties de route, comme elle dit, que par la grande ligne droite? Et là, je me dis, ouf, oui, c'est bien ce que je vis aussi, c'est bien ce qui s'est écrit là, elle le dit aussi. On aimerait que la rupture soit une coupure franche, bien droite et nette, d'un seul coup, comme le sabre qui décapite, mais la rupture est une déchirure. Elle ne retrouve que rarement les contours nets de chacun. C'est-à-dire qu'en fait, une fois qu'on est rentré dans la rupture, on sait qu'on ne pourra pas retourner dans un état antérieur, que c'est fini. Quand il y a eu le confinement, moi, ce livre, je le prenais soit le matin, soit le soir. Et ensuite, j'allais me promener avec quelques phrases, en fait, dans la tête. Et donc, je montais souvent dans la montagne. Et il y avait un endroit, un rocher sur lequel je m'asseyais tous les jours pour faire une sorte de méditation, on va dire. J'étais face à la mer, immobile, bien souvent, sans aucun bateau. Comme si le monde était arrêté. D'ailleurs, il était arrêté. Et parfois, je me mettais à penser que l'humanité entière était arrêtée et que c'était totalement vertigineux. Et j'avais la sensation vraiment d'être sur un astre, et d'un astre à la dérive. C'était un vide morbide, finalement. Et un jour, j'ai emmené ce livre avec moi. Et dans les dernières pages, elle raconte l'histoire d'une mère qui a perdu un enfant très jeune. Et elle dit... elle dit « La rupture nous laisse à nu, dans un dépouillement psychique tel que cet abandon de soi est sans doute nécessaire. » Elle dit « Peut-être faut-il passer par ces nuits de l'identité personnelle, ces moments d'absence à soi pour renaître autrement au mouvement de la vie, à son allant et retrouver une certaine forme d'adhésion et de confiance. » Et en fait, cette phrase, je l'ai trouvée extraordinaire. C'était exactement ça. Soudain, moi, face à cet horizon de silence forcée, j'étais en train de perdre confiance dans la vie. J'inspirais la phrase et je l'expirais dans tout mon corps pour qu'elle me traverse et qu'elle aille se répandre et toucher toutes les cellules de mon corps. Et donc les mots, moi, je les incorporais, je les incarnais au plus profond de mon être. Parce qu'ils me soignaient, c'était comme une grande sœur qui venait me chuchoter « Mais t'inquiète pas, tout ça, tu vas renaître autrement au mouvement de la vie, tu seras dans une nouvelle adhésion, une nouvelle confiance. » En novembre 2019, j'ai perdu ma sœur, le 23 novembre 2019, ma sœur Sandy, qui avait 40 ans, est décédée après 3 mois de coma. À ce moment-là, comment ne pas être en rage, révoltée, dégoûtée, la nausée aux lèvres Et je ne pouvais même pas aller courir pour défouler cette énergie noire, cette violence que je ressentais en moi de colère, de penser que sa propre sœur, alors que moi je vais avoir 50 ans, ma sœur de 40 ans est morte, qu'elle est incinérée, que son corps n'est plus, que je ne pourrai plus jamais la revoir, que je ne reverrai jamais ses yeux bleus, son sourire, je ne reverrai jamais son désespoir non plus parce qu'elle était désespérée. Elle est morte d'avoir été débordée par la vie. La vie la débordait, elle ne savait pas comment faire. Alors, elle prenait des cachets, des médicaments tout le temps, beaucoup, trop. Elle n'avait pas trouvé, en fait, de manière de... elle n'avait pas trouvé d'issue à sa douleur de vivre, à sa terreur d'exister. Mais moi, face à ça... ma psychanalyste m'a parlé de ce livre de Anne Dufour-Mantel, Puissance de la douceur. Et la douceur, c'était une réponse à la folie de ce monde. Elle nous dit non, la douceur est une puissance. D'ailleurs, c'est Marc Aurèle qui le dit, elle le met en exergue. La douceur est invincible. Parce que peut-on faire contre quelqu'un qui, à une agression, vous répond par la douceur? Rien. Alors, pendant le confinement, quand j'avais bien accepté les ruptures et que j'avais bien compris que c'était le principe même de l'existence, je cherchais à intégrer, en fait, ces ruptures, ces accidents de la vie, à travers le prisme de la douceur. Parce que la puissance de la douceur... Moi, il suffit que je l'ouvre, que je lise un passage pour qu'elle me calme et qu'elle me remette sur la bonne voie. Si je feuillette et que je tombe sur cette phrase, « La douceur est d'abord une intelligence de celle qui porte la vie et la sauve et l'accroît. » La douceur accroît la vie. Il suffit que je lise ça sur ce rocher, dans les montagnes autour du parc régional des Calanques, pour me dire « Bon, d'accord, donc quoi qu'il arrive, je vais essayer que mes gestes puissent être assez doux pour que je puisse entrer en communication douce avec tout ce qui va m'entourer. » Et Anne Dufour-Mantel explique que la douceur fait pacte avec la vérité. Elle est une éthique redoutable. La menace de la mort même ne peut la contrer. La douceur est politique, elle ne plie pas, n'accorde aucun délai, aucune excuse. De l'animalité, elle garde l'instinct. Ça, c'est très beau. De l'animalité, elle garde l'instinct. De l'enfance, elle garde l'énigme. De la prière, elle garde l'apaisement. De la nature, elle garde l'imprévisibilité. Et de la lumière, elle garde la lumière. Voilà, c'est ça, la douceur. Je ne sais pas si elle a eu la chance, ma sœur Sandy, de rencontrer ce livre. J'ai pas eu le temps de lui en parler. Mais elle avait une très très grande douceur en elle. Elle était très aimante. Et parfois c'était totalement caché par des couches et des couches et des couches d'angoisse, de peur, de terreur d'exister. Ce qui faisait que sa douceur, on la voyait au fond de son regard, dans ces quelques taches de rousseur qu'elle avait sur le nez quand même, et son sourire qui était extrêmement bon, je l'entends encore. Et aujourd'hui, dans sa disparition, comment trouver de la douceur? Quand je pense à elle, je pense, par exemple, le jour de l'anniversaire de sa mort, il y a quelques semaines, j'ai allumé une bougie, j'ai entouré cette bougie d'un ruban rouge avec son nom décrit, et toute la journée, toute la nuit, la bougie a brûlé, et il n'y avait que de la douceur à ce moment-là, que de la douceur. It wouldn't take me long to tell you how to find it. Tell you where we'll meet. This little girl inside me is retreating to her favorite place. Go into the garden, go under the ivy, under the leaves, away from the party. Go right to the rose, go right to the white rose. For me, I sit here in the thunder, the green on the gray. I feel it all around me. C'était Confinement sauvé par les livres, un reportage d'Élise Andrieux réalisé par Cécile Lafont. Merci à Karine, à Savannah, aux librairies indépendantes des réseaux libraires.fr, à Maya Albert, à Initial, à Wilfried Sejot, syndicat de la librairie française, à Morgane Le Guilou et à notre médiatrice, la médiatrice de Radio France qui s'appelle Emmanuelle Davier. C'est Mélissa Fous, l'attachée de production des Pieds sur Terre, et c'est François Bréus, notre stagiaire.